m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je le dis avec courtoisie, mais...
Oui. Avec courtoisie, bien sûr.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Jean, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Ami du lundi, Hardy, bonsoir et bienvenue pour un nouveau numéro de Restons Courtois, l'émission de débat de Radio Courtoisie en partenariat avec L'Incorrect, Boulevard Voltaire, Le Monde Moderne et Valeurs Actuelles. Notre invité ce jour est Marin de Viry, journaliste au Figaro Magazine et à la Revue des Deux Mondes.
Bonsoir.
Professeur à professeur de littérature à Sciences Po Paris.
Ex.
Ah, oui, bah, les fiches ne sont pas à jour.
Oui.
Et écrivain, ça c'est toujours en cours. Et ce soir, donc, vous venez, Marin de Viry, nous parler de votre nouvel ouvrage, Notre Royaume, enquête sur l'actualité de l'idée monarchique, paru aux éditions Salvator. Alors, la France est-elle un royaume qui s'ignore? Est-elle une république qui ne demande qu'un petit peu de transcendance? Le royaume est-il une simple forme politique ou a-t-il un petit supplément d'âme par rapport à la démocratie parlementaire ou à l'administration européenne? Est-ce que l'idée d'une royauté française a encore du sens en 2026? Et si oui, comment et avec qui peut-elle s'incarner? Voilà, ce sont toutes les questions que nous allons vous poser dans un instant.
Avec joie.
Rendez-vous de la réinformation ensuite. On reste un petit peu, enfin, on redescend sur terre, mais nous restons dans une certaine cohérence programmatique, comme on dit chez nos amis macronistes, avec Bali Bagayoko, le satrape de Saint-Denis, qui, après avoir voulu désarmer sa police municipale, supprimer les caméras de surveillance et vanter sa ville comme celle des rois morts et du peuple vivant, cohérence, vient de donner son avis sur la présidentielle de 2027 de manière assez ramassée. Soit c'est eux, soit c'est nous, a-t-il dit, dans un entretien au site communautaire musulman, Ouma.com. Donc le maire et les filles prédit une insurrection populaire en cas de victoire du Rassemblement national, et donc un final assez explosif, hein, puisque ce sera eux ou nous, enfin eux ou eux. Le député et coordinateur national de la France Insoumise, donc qui est Manuel Bompard, a jugé qu'il ne s'agissait pas du tout d'un dérapage, mais d'une réalité dont il fallait tenir compte, même s'il fallait que cela se passe sans violence. Donc, alors je ne sais pas comment ça sera, mais bon, après tout...
Jeanne Garde d'assurer le service d'ordre.
Exactement. Liberté ensuite, au nom de la lutte contre le séparatisme, de la lutte contre la haine ou pour la protection des mineurs, on voit depuis quelques mois se multiplier les projets de contrôle des libertés, et donc généralement au nom de principes extrêmement raisonnables, mais souvent avec des biais inquiétants et des conséquences potentiellement désastreuses pour le respect des principes démocratiques supposés inviolables de notre belle République. Alors voilà, faut-il se réjouir d'être si bien protégé par Emmanuel Macron et ses amis? Je parle du gel des avoirs, de la censure numérique, de tout un tas d'autres choses. Et ou bien est-ce qu'il faut renacler pour préserver nos libertés? Voilà, ça sera l'objet d'un débat qui s'annonce clivant au possible avec mes invités. Et international, nous parlerons aussi de la victoire du parti Reform UK de Nigel Farage aux élections locales qui avaient lieu jeudi au Royaume-Uni. Donc une percée attendue, mais néanmoins impressionnante, de ce gars du Brexit, pour parler comme Donald Trump, hein, qui qualifiait ainsi Farage. Cette victoire de Reform UK marque la défaite du Labour, donc le Parti Socialiste anglais, qui perd 1300 sièges sur les 5000 qui étaient en jeu, mais aussi des conservateurs qui, eux, perdent seulement 563 sièges. Et puis cela marque évidemment la fin, en tout cas provisoire, du bipartisme. Alors justement, est-ce que c'est un feu de paille ou un phénomène durable? Est-ce que cela pourra se reproduire aux législatives? Et est-ce qu'il y a des leçons à en tirer pour la France? Voilà, ben nous en parlons également dans un instant. Et puis, s'il nous reste un peu de temps, nous parlerons des joueuses de tennis qui ont lancé un mouvement de boycott à Roland-Garros au prétexte qu'elles ne gagnent pas assez d'argent et que les gains ne sont pas assez répartis.
Gain de cote.
Pardon ?
Girl code.
Girl code. Oui. Comme on dit en bon français. Alors, j'avoue avoir cherché des synonymes pour boycott, mais je n'ai pas trouvé quelque chose d'assez exact, puisqu'il y a interdiction, rejet, mais je n'ai pas trouvé. Marine Viry, si vous avez une idée, je prends.
Retrait conditionnel, je ne sais pas.
Retrait, oui. C'est quand même moins expressif que boycott. Ouais,
ouais. Refus d'achat.
Oui, refus, oui.
Grève d'achat.
Refus de vente.
Donc oui, mais là, elle refuse de jouer.
Bah, c'est une grève.
Oui, c'est une grève, peut-être. C'est la grève des joueuses, voilà. Voilà, en tout cas, elles estiment qu'elles ne gagnent pas assez de sous et que les gains ne sont pas assez bien répartis. Et alors, dans la foulée, quelques joueurs parmi les mieux classés en ont profité pour tendre également la raquette et réclamer de meilleures rémunérations. Donc voilà, est-ce qu'il faut que les femmes gagnent autant que les hommes, même si elles vendent 35% de billets en moins, en moyenne sur l'année ? C'est une vraie question quand même, hein. C'est sans sexisme aucun. Faut-il que les meilleurs joueurs gagnent encore plus, ou que les gains soient mieux redistribués sur l'ensemble des joueurs ? Voilà, ça fait des tas de questions qui dépassent d'un certain point de vue le cadre du sport. Ou au contraire, voilà, est-ce qu'il faut estimer que 100 000 euros pour une défaite au premier tour et 2,8 millions pour le vainqueur, c'est quand même pas mal, et que les gains des billetteries, par exemple, seraient mieux utilisés pour alimenter les clubs, les espoirs, ou les amateurs même de la Fédération Française de Tennis. Voilà, ce sera autant de questions que nous allons poser donc aux ramasseurs de balles de la réinformation, avec Richard de Seize. Pourtant, bonjour. C'est pas faute de se voir tous les jours.
Bonjour.
Richard de Seize, directeur de la rédaction de Radio Courtoisie. Arthur de Vatrigan, directeur de l'Incorrect, Jean-Yves Le Gallou, président de Polémia, les camarades qui sont habituellement là en Zoom nous font faux bond aujourd'hui, et donc Claudia aux commandes, que l'on remercie, et donc Marin de Viry, vers qui nous allons nous tourner dans une minute, pas plus. Je vous rappelle le temps, voilà, pour vous, chers auditeurs, de vous rappeler que vos questions, vos remarques sont attendues et seront lues à l'antenne dans la mesure du possible. Si vous voulez bien écrire à courtoisie@rc.fr, courtoisie@rc.fr, ou téléphoner au 01 46 51 00 85. Alors, le royaume peut-il snober la République ? C'est pas exactement ce que vous proposez comme thèse, mais ça m'a fait rire parce que ça m'a fait penser à...
Oui, c'est même tout à fait le contraire.
Oui, je sais bien, mais, mais comme j'avais lu vos mémoires d'un snobé...
Je pensais pas que vous alliez me tomber dessus comme ça tout de suite. Non, l'idée n'est pas du tout que le royaume snobe la République.
Bah non, c'est le contraire.
La démocratie, ouais. Non. Écoutez, je peux vous dire pourquoi je l'ai fait, ce livre. Peut-être que ça répondra à votre question de manière indirecte. Vous voulez que je réponde vraiment pile poil, comme dans une interview rapide, comme ça ?
Oh, on a tout le temps, voilà. On a une heure devant nous.
Ok, donc c'est parfait. Alors, j'ai fait ce livre parce que j'en ai assez de la vie politique française depuis très longtemps. Bon, le problème, il ne suffit pas d'avoir assez de la vie politique française, encore faut-il savoir ce qu'on a comme reproche fondé à lui envoyer. En fait, c'est plutôt une question d'esprit public qui a été ma réponse, c'est-à-dire au fond le fait qu'on assiste à un déballonnage complet, à une sorte de chute morale qui ressemble à un cauchemar d'Emmanuel Kant, que la violence, l'imbécilité, l'utilisation des préjugés, des préjugés littéralement mitraillés dans la presse et sur les plateaux télé, etc. Bref, qu'il y avait un déballonnage général et que ce déballonnage aboutissait à une situation de vulgarité intellectuelle et de vulgarité civique qui confinait en fait au cauchemar civilisationnel du point de vue du spectacle politique. Voilà. Donc ça, c'est pour ça que j'ai fait ce livre. Et je me suis dit, au fond, dans l'histoire de ce pays, il y a eu différentes phases politiques. Il y a eu une phase qui s'appelle la monarchie, dans laquelle, me semble-t-il, quelles qu'aient été les améliorations possibles de ce régime, quels qu'aient été ses défauts, mais il y avait quand même une forme, disons, d'exemple de type d'homme et de partage d'une certaine hauteur de vue que Balthazar Gracian avait appelé, bien avant ça, le reau. C'est-à-dire cette espèce de désir que les hommes peuvent avoir de se distinguer, de s'élever un petit peu et de cesser de céder à la part la plus vulgaire d'eux-mêmes. Voilà. Donc, je me suis dit, je vais voir aujourd'hui ce que donne cette idée de monarchie, de royaume. Il faut faire attention parce que monarchie, tout de suite, il y a des déploiements d'idéologie derrière. Tandis, non, c'est pas ça qui m'intéresse, c'était l'idée de royaume. C'est-à-dire l'idée d'un grand ensemble, beau, transcendant, qui élève tout le monde et qui pourrait en quelque sorte nimber, tirer vers le haut notre vie politique. Bon. Et je me suis dit, mais est-ce que cette affaire-là existe encore dans les esprits ou est-ce que c'est moi qui, en feuilletant mon Balzac et mes bouquins d'histoire, mon Brodel, etc., dans les coins, est-ce que c'est moi qui fantasme ? Et je sais bien, parce que j'ai un tout petit peu lu, que, comment dirais-je, il y avait une forme de débat qui passionnait nos grands-parents ou nos parents, qui était la dialectique entre la République et la monarchie. Et que cette dialectique, c'est-à-dire cette opposition dans l'histoire, on va dire, était quelque chose de très fort dans la tradition intellectuelle française, qui d'ailleurs perdure. Hein, quand vous allez écouter des profs d'histoire à la Sorbonne, il y en a certains qui font l'éloge de Marat. Bon. Donc ça existe, non mais ça existe toujours. Mais je me disais, il me semble quand même que ça ne correspond plus qu'à un tout petit milieu et que l'ensemble des gens peut-être pourraient accueillir l'idée de royaume avec plus de bon. Donc j'ai été voir une cinquantaine de personnes. Du bas en haut de la société, alors plutôt en haut parce que j'avais pas non plus un budget pour aller fouiller dans tout le pays, mais et au fond, qu'est-ce qui est sorti de cette affaire ? C'est que justement cette dialectique entre la République et la monarchie n'existe plus. C'est-à-dire que là où, si vous voulez, ma grand-mère vivait la mort de Louis XVI comme une sorte de catastrophe à la fois métaphysique et politique, et je dirais patrimoniale pour la France, une sorte de catastrophe épouvantable, bah, au fond, c'est devenu toujours aussi criminel, mais c'est devenu un fait d'histoire qui est rentré dans l'histoire. De la même manière, donc je cite les choses qui n'ont plus...
Il y a
plus...
même des gens qui ne savent plus qui est Louis XVI.
Oui, oh ben ça, oui ça,
pardon, mais... c'est...
Oui, bien sûr. Donc je continue, si vous voulez, d'éliminer ce qui autrefois ce qui autrefois faisait le débat. Si par exemple on parle d'un sujet qui fâche toujours, Maurras. Bon.
Ah, alors...
vous voyez que ça fâche.
Ça ne fâche pas, mais c'est un gros sujet.
Oui, oui. Et... Non, mais c'est un gros sujet.
Balayez-le deux secondes, mais on y revient en long après.
D'accord, oula. En long
vous en êtes... large, en travers.
D'accord. Alors que ma recommandation serait plutôt de dire « Laissons-le rentrer dans l'épaisseur de l'histoire ». Parce qu'il attire à lui, en raison de sa grande intelligence, et en raison aussi de son... comment dirais-je, de son legs sur le plan de la réflexion sur les intérêts de la France. La géopolitique contemporaine doit beaucoup aux émules de Maurras, ça c'est tout à fait clair. Bon, l'histoire, d'une certaine façon, l'historiographie doit beaucoup à Maurras. Mais, comment dirais-je, sa trajectoire personnelle, son antisémitisme d'État, qui était, je le rappelle, rappelé sur... Les cartes d'adhérents de l'Action française. Les adhérents de l'Action française devaient croire se soumettre en antisémitisme d'État tel qu'il était proféré par Maurras. Il suffit de regarder une carte d'adhérents de l'Action française. Donc, il y a tout un tas de choses qui sont totalement inaudibles, inacceptables, incompréhensibles, déshonorantes d'une certaine façon, parce qu'il y a aussi quand même cette opposition à la France libre, même si tout est plus compliqué que ça. Mais
enfin, ça, c'est les toutes dernières années de Maurras.
Oui, c'est toutes dernières années. Oui, bien sûr, oui, mais c'est trois. Oui, mais la fin.
Oui, oui.
La fin. Comment dirais-je, est le rétroviseur du reste, quoi. Bon, bref. Donc, je suis pour, non pas liquider Maurras, mais le laisser rentrer dans l'épaisseur de l'histoire, lire des bonnes biographies. Il y en a une de Joe Conti, par exemple, qui est excellente. Il faut lire des bonnes biographies, etc. Se dire que c'est un homme dont on réexaminera l'apport à la vie intellectuelle, l'intérêt, etc., dans une trentaine ou une quarantaine d'années. Mais quand on a 25 ans, on n'est pas obligé de lire tout Maurras et de fonder son rapport à la vie politique et son rapport à l'histoire de France à travers Maurras. Voilà. Bon. Donc, un, Louis XVI, deux, Maurras. Et donc, d'une certaine façon, si on est débarrassé de la dialectique et si on est débarrassé de Maurras, et c'est ce que j'ai vu dans mes entretiens, à ce moment-là, on rentre dans un monde dans lequel le royaume, la République et la démocratie ne sont pas une opposition dialectique, mais sont emboîtables, compatibles et réconciliables.
Alors, voilà. Là, on vient de poser le décor, de devenir bien solide.
Bon.
Mais d'abord, il faudrait revenir sur vous.
Oui,
je vous l'avais dit. Alors, j'ai lu que votre père, donc, était, alors votre grand-père était un monarchiste orléaniste.
Oui.
Votre père, lui, était un légitimiste.
Oui.
Et il considérait presque plus grave d'être républicain que d'être orléaniste.
C'est ce qu'il m'a dit, oui. Il m'avait.
Morin, c'était orléaniste. Donc, lui.
Oui. Il m'a dit donc mon grand-père.
Donc vous êtes né avec le monarchisme, avec l'idée de royauté.
Oui, alors oui, mais en même temps j'ai été, si je puis dire, tout à fait passé à la machine à laver par Sciences Po, parce que Sciences Po m'a expliqué que, en fait, et je pense que un des boulots de Sciences Po, c'était de prendre des gens de la France traditionnelle dans mon genre, et puis de les transformer en soutien de la Ve République de la beauté magnifique de cette constitution de la Ve République. C'était ça l'idée de Sciences Po, d'ailleurs, d'une certaine, enfin ça ne l'est plus maintenant, parce que maintenant il n'y a plus personne qui vient de la tradition, si je puis dire, à Sciences Po, mais voilà. Donc oui, je viens de ça.
Où êtes-vous né?
Alors, Paris en ce qui me concerne, mais ma famille est savoyarde, donc j'ai une maison de famille en Savoie, nous avons toujours des attaches savoyardes très profondes, depuis très longtemps.
D'accord. Et voilà, donc, mais vous êtes
féodal savoyard.
La famille remonte a été française dès le début ou non?
Pas du tout. Nous ne sommes français que depuis 1860. Si c'était, d'une certaine façon, je peux m'associer à la diversité.
Oui.
La diversité. Français de fraîche date. Oui, tout à fait. Bah oui, il y a eu un référendum en mars 1860 pour le rattachement de la Savoie à la France. Les Savoyards, inspirés par leur
référendum truqué, mais
truqué, ah, oui. Oui, bien, enfin truqué. Disons, très bien encadré, par le clergé, par la maison de Savoie elle-même qui y avait intérêt, par l'empereur Napoléon, et tout ça s'est passé, voilà. Après, est-ce que c'est... Bon.
Alors, on va revenir à la modernité. Dans vos livres, à plusieurs reprises, vous citez un diplôme qui est le MBA, le Master of Business Administration. En général, ça sert à caractériser une personne ou une situation à la fois très sérieuse et en même temps pleine de vide.
Oui.
Et généralement, vous évoquez ça quand un personnage se trouve un peu à la croisée des chemins ou quand il lui faut faire un choix entre le plein et le vide, entre le vide et le plein.
Oui.
Alors, on sent que pour vous, donc ce MBA est un... Alors, le MBA, c'est, en gros, c'est un diplôme qui sert à administrer les entreprises, enfin la finance.
Oui.
On finit gestionnaire d'entreprise ou d'un fonds, d'une fondation, des choses comme ça. Et on sent que pour vous, c'est un diplôme donc, qui a les apparences de l'élitisme, mais sans profondeur. Et vous êtes quasiment aussi sévère pour le MBA que pour Charles Maurras. Alors, qu'est-ce que vous avez contre le MBA?
Ah, il doit y avoir...
Sachant que je n'ai pas fait de MBA, donc je m'en fiche, mais...
Il doit y avoir dans mon esprit une solidarité secrète entre le Master in Business Administration et Charles Maurras, mais c'est compliqué quand même. Hein, il faut... Non, le MBA, c'est un diplôme d'état-major business, quoi. C'est-à-dire que quand on sort de là, on parle d'affaires exactement de la même manière que quelqu'un qui a fait un MBA... qui a aussi fait un MBA. Donc on parle du marketing de la même manière, on parle des finances de la même manière, on parle de la production de la même manière, etc. Toutes les matières, en fait, de l'endroit. Donc c'est ça, un MBA. Ce qui, si vous voulez, pour moi, le MBA, c'est le désir qu'a un individu de rentrer vraiment dans le système économique capitaliste en y réussissant. Voilà, c'est tout ce que ça veut dire. C'est pas méchant. Je veux dire, moi-même, j'en ai fait un. Donc,
ah, c'est peut-être
pas quand même complètement me déjuger à ce point. Non, non, mais vous avez raison. Il y a une notion de vide qui est associée à ça, mais qui est tout simplement le vide matérialiste. Mais qui n'est pas méchant vis-à-vis du MBA. Quand même, enfin, j'ai fait la Sorbonne, Sciences Po et un MBA, justement. La Sorbonne, c'était très profond.
Vous faisiez quoi à la Sorbonne?
Des lettres. J'ai fait un doctorat de lettres avec Crouzet sur Stendhal. Donc à la Sorbonne, c'était très profond. À Sciences Po, c'était, comment dirais-je, potentiellement très profond, mais pas très approfondi. Le MBA, c'était vraiment une école d'application, si vous voulez. C'est vraiment ça, c'est une école d'application. On fait en sorte de prendre des décisions de direction générale parce qu'on sait comment ça marche. Voilà,
c'est... Et alors, si c'est pas indiscret, comment on fait pour passer justement d'un doctorat de lettres à un MBA?
Bah, en fait,
quelle est la logique?
On fait Sciences Po au milieu, déjà, comme ça, ça aide à faire le MBA. Donc, voilà. Et puis le MBA, on le fait, enfin, il y a plusieurs type, mais bon, on le fait quelques années après avoir commencé à travailler. Moi, mes patrons m'avaient dit, t'es bon, mais t'es nul en finance, et donc tu vas aller faire un MBA.
Pour ok. Mmh. Oui, donc il y a une façon de prolonger un...
Oui, c'est drôle qu'on parle de ça, alors qu'on est en train de parler de la France à travers les siècles. Parlez-moi des capés, s'il vous plaît.
Ben, ça va venir. Mais j'ai lu plusieurs livres de lui, enfin, pas à chaque fois, mais souvent.
Oui.
Le MBA revient.
C'est vrai.
Et donc, si on fait de la littérature,
non, mais parce qu'on
parle,
en fait,
de parler
ça revient.
Mais c'est le côté orléaniste, le MBA.
Oui,
c'est,
voilà.
C'est une puissance de l'argent.
Ouais, le fric est avec.
Cette adultération fondamentale de l'idée monarchique.
Mais bien sûr, mais vous avez raison. Mais
c'est d'ailleurs. Il avait fait un MBA, d'ailleurs. Non, mais
il aurait pu.
Entre le MBA de Louis-Philippe et les affairistes de Napoléon III, on sent quand même. C'est pas quelque chose de sourd.
La ligne de cohérence. Ouais. Non, mais vous avez raison, c'est ce qu'il y a de sympathique, à la fois de sympathique et probablement de difficile, et probablement d'incapacitant dans la proposition orléaniste, c'est que d'une certaine manière, ça incorpore les objectifs d'enrichissement de la bourgeoisie et la contrainte sur la société que ces objectifs d'enrichissement font peser. Ça les incorpore dans la proposition royale et en même temps ça dit on va pas rompre avec le passé pour autant, donc c'est une sorte de...
Il y a quand même une lourde hérédité dans l'orléanisme.
J'entends bien ce que vous dites, oui. Pouvez-vous préciser en quoi vous trouvez
Philippe, voilà, il y a une lourde hérédité.
Oui, alors Louis-Philippe, c'est pas de sa faute. Philippe égalité, là c'est de la sienne. Oui, bien sûr. Mais c'était de ça, il ne faut pas parler de ça, c'est pas...
Non, ce qui est intéressant, c'est que dans votre livre, vous essayez justement, en parlant de royaume et pas de monarchie, de dépasser la querelle du prétendant, dépasser, si j'ose dire, le côté dynastique et historique. Vous fondez votre réflexion sur une analyse du passé, mais vous essayez d'en tirer un royaume pour maintenant.
Oui, je ne veux pas entendre parler de querelle de prétendant, parce que quand on rentre là-dedans... Non, mais je ne veux pas en entendre parler pour une raison très simple, c'est quand on rentre là-dedans... Alors, je sais bien qu'il y a deux principes. On peut très bien, tous ensemble, dire le principe orléaniste, c'est ça, le principe légitimiste, c'est ça, et on sera parfaitement d'accord autour de cette table sur quels sont les deux principes, quelles sont les composantes des deux principes, et pourquoi ils s'opposent. Mais, moi, je dis deux choses. Un... l'un a besoin de l'autre et l'autre a besoin de l'un. C'est-à-dire qu'en fait, dans le légitimisme actuel, il y a quand même un petit peu de dichotomie entre le légitimisme actuel et la société telle qu'elle a évolué. Bon. Dans l'orléanisme actuel, il y a un manque de cette qualité, je dirais, métaphysique du légitimisme. Et donc, les deux... ont besoin de l'autre. Voilà. C'est ce que je dis. Donc, Jean d'Orléans et Louis de Bourbon, pour ne pas les citer, pourraient tous les deux devenir roi de France. Ça serait très bien. Mais la question de savoir lequel des deux deviendra roi de France est un problème de famille. Et moi, je n'ai pas l'habitude de me mêler des affaires de famille des autres. Bon. Donc, c'est un peu à eux, même si ce sont les Français qui sont, appelés à dire oui à l'arrangement qu'ils auraient trouvé. Mais je pense que c'est à eux de trouver un arrangement.
Est-ce que ça peut être une troisième famille? Parce que Rénal est mérovingien. Mais non, mais c'est vrai, ils ont été remplacés par les Pipinides.
Les Bourbons Sicile.
Ah oui.
Ah oui, non, c'est ça.
Non, mais c'est sûr.
Alors, il y a quand même des
critères. Même les Carolingiens.
Il y a quand même des critères d'acceptabilité par les Français, si vous voulez. Parce qu'il y a un moment où, le début de toute monarchie est un processus électif. Capet a été élu. Bon, voilà, c'est un processus électif. On ne va pas se cacher derrière le fait que, en fait, c'est la loi du peuple dans cette affaire qui joue. Bon. Donc, il y a quand même des critères d'acceptabilité. Donc, le côté olé olé de tel ou tel prince qui serait parti dans une vie différente, disons, de celle qu'un dynaste responsable devrait avoir, c'est-à-dire s'intéresser aux problèmes de son temps, bref. Donc, ceux-là, on ne les veut pas, et c'est bien les Français qui décideraient. Mais simplement qu'ils se... J'allais dire, qu'ils, non pas qu'ils se débrouillent, parce que ce n'est pas du niveau de la débrouille, mais qu'ils se mettent d'accord. Voilà. Non, alors, c'est vrai. Oui.
Pour en revenir quand même à la structure de votre livre, comment est-ce que vous avez eu l'idée? Donc l'enquête sur l'actualité de l'idée monarchique, ça fait appel, à une certaine enquête qui a eu lieu un siècle avant.
Je sais.
Bah non,
je
mais, mais que, comment on fait pour se dire, je vais interroger Frédéric Becbédé, quelles questions vous lui posez et comment, bah, vous, comment vous abordez le sujet avec Frédéric Becbédé ou avec, alors Jean-Christophe Buisson, on comprend plus facilement.
Oui, mais... oui. Oh, bah, c'est très simple, moi je vois des gens pour des raisons professionnelles, j'ai des amis, etc. Et j'ai fait un travail, j'ai envie de dire, de Français qui se promènent avec une question. Donc je croise Frédéric, je lui pose la question. Alors après, il y a des gens...
Une question ou une série et un questionnaire?
Une série de questions, je lui dis, écoute, quel est ton sentiment aujourd'hui sur... en fait, le fait que la France est un royaume et pourrait, pourrait réinstituer un royaume. Voilà. Donc il ne s'agit pas de restauration. Il s'agit de réinstitution d'un royaume. Le royaume est une institution invisible. Le royaume est une institution, comment dirais-je, disparue. Mais le royaume peut renaître. Il y a énormément de choses dans l'histoire qui renaissent. Je ne sais pas si vous avez remarqué... en ce moment, on parle énormément de la civilisation assyro-babylonienne. Bon. Et je suis sûr que dans 10 ou 15 ans, cette civilisation qui a disparu, d'une certaine façon, depuis des siècles, va réapparaître. Pourquoi ? Parce qu'il y a des œuvres d'art, parce qu'il y a une idée, parce qu'il y a une proposition culturelle qui est extrêmement forte et qui, à un moment, correspond à un esprit public, voilà, local. Bon. Alors, je ne compare pas les Capets aux Assyro-Babyloniens, mais je dis simplement que l'idée n'est pas morte, l'idée n'est pas morte, l'idée est réactualisable et il y a un contexte politique actuel qui pourrait la... Voilà, favorable.
Au sens où la constitution de la 5... Donc, en gros, l'idée n'est pas morte.
Oui.
Elle est actualisable, peu importe la dynastie, ça peut être les Bourbons, les Orléans, ça peut même être un troisième, tant qu'ils respectent le principe de la royauté, c'est-à-dire... Alors, après, se pose la question quand même du droit divin, parce que vous parlez du principe électif. Est-ce qu'on considère que le roi est de droit divin dans votre nouveau régime?
Je dirais que le roi est catholique, ça...
Ah, obligatoire.
C'est obligatoire, oui. Non, mais c'est pas parce que... Comment dirais-je? C'est pas parce que je suis d'un prosélytisme agressif, mais c'est juste parce que... Enfin, comment dirais-je? Si on parle de royaume de France, on parle du baptême de Clovis. Tout a commencé là, voilà.
Donc ça ne peut pas être un califat?
Non. Non, non, ça c'est pas possible.
C'est pas insultant.
C'est pas possible.
Je demande, je pose des questions. Du nouveau régime.
Vous n'avez pas lu jusqu'au bout. Vous reguez le problème très vite. Hein.
Vous dites tout lu jusqu'à la dernière ligne.
Sauf pour créer le royaume, pour réinstituer le royaume, il y a des petites légères modifs de constitution.
Oui.
Je vais à lire aux auditeurs, comme ça ils sauront.
Oui.
Vous dites, on va modifier légèrement l'article 1. Donc la France est une république indivisible, laïque et démocratique et sociale. Vous dites, il suffit d'écrire à la place, la France est un royaume, le roi est catholique. Le royaume est administré par une république indivisible, démocratique et sociale.
Voilà.
Alors,
c'est sympa d'avoir fait sauter laïque, en tout cas.
D'avoir...
Non, mais ça, c'est la page d'après, laïque. Il faut faire référendum.
Oui, justement, parce que voilà, très bien, oui, tout à fait.
Oui.
J'ai discuté,
ça,
alors, vous me demandiez avec qui j'ai discuté pendant très longtemps, le meilleur de tous sur le sujet de la laïcité, il y en a deux. Il y en a deux, des meilleurs. Il y a Bernard-Henri Lévy, qui est très très fort sur la laïcité. Il m'envoyait tous ses bouquins dans lesquels il parlait de la laïcité. Et en fait, après avoir beaucoup réfléchi, j'ai considéré que cette manière de voir était possible sur le plan individuel. C'est-à-dire, en fait, on est catholique, on est musulman, on est juif, on est athée, on est bouddhiste, on est tout ce que vous voudrez. Et l'école nous forme à une forme d'athlétisme civique qui nous permet d'être dans le... une discipline civique, disons, mais très athlétique, parce que très difficile à tenir, qui est que dans l'espace public, on ne se manifeste pas trop, se manifeste éventuellement un peu, mais pas trop, quand on se manifeste, c'est dans un cadre bien précis de traditions qui sont acceptées par les autres communautés, discutées, etc., etc. Bon. Et moi, je rajoute, mais c'est plutôt l'idée de Sébastien Lapacq que j'ai aussi un peu creusé, l'idée de concordat. Je pense que le concordat est la manière de bien régler la présence du religieux dans l'espace public.
Voilà. Concordat avec qui?
Concordat avec toutes les religions.
Oui.
Pas toutes les religions, mais toutes les religions, comme ça marche déjà dans une partie de la France.
Mais qui accepterait donc de se soumettre à un principe
de laïcité
supérieur, aussi de catholicisme du monarque.
Oui, alors il faut trouver le bon équilibre, ça c'est toujours la difficulté dans le concordat entre les gallicans et les ultramontains. Et donc, moi, je suis quand même, voilà, pour trouver cet équilibre. Je suis pas...
la monarchie française a régulièrement réussi à se faire excommunier par le pape. Donc, le principe gallican est assez solidement ancré.
Oui, 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 tout à fait. La querelle des investitures, tout ça. Mais je... oui, oui, bien sûr.
Enfin, là, si on parle de la France de 2026, c'est pas tellement le Vatican.
Ce que je trouve intéressant dans l'idée de supprimer le laïcat, en tout cas la laïcité militante, c'est de dire, en fait, dans votre royaume, la religion fait partie de l'espace social, en fait, plutôt que d'expliquer qu'elle n'est que de l'ordre du privé.
Oui, oui, oui.
Mais en même temps, vous ne faites pas de la France, du royaume de France, une théocratie.
Non, non, pas du tout. Simplement, ce que je dis, c'est que le royaume est sacré, et on ne va pas dire dans un espace sacré qu'il n'y a pas de religieux. Donc, si ce n'est pas le religieux du roi, c'est un autre religieux. Et donc, comment prend-on en compte ce fait religieux? C'est tout. Le royaume est sacré parce que parce que l'idée même du roi, je crois que je commence mon livre par le dictionnaire de Benveniste des institutions indo-européennes. Bon, il dit au fond, ce que fait un roi, c'est de tracer une frontière. Voilà, et dans cette frontière, on est dans le royaume. Mais cette frontière...
C'est Romulus.
Oui, oui, c'est Romulus et Rémus, oui. Mais dans cette frontière, on est dans le royaume. Mais c'est aussi la frontière entre le ciel et la terre, entre le passé, le présent et l'avenir. Ce sont en fait toutes les frontières que l'esprit humain veut avoir pour pouvoir agir, à la fois politiquement, mais aussi pour pouvoir sentir qu'il est dans une communauté. Bon, c'est ça un royaume. Et donc, c'est sacré cet espace-là. Cet espace-là est sacré. Et donc, puisque cet espace est sacré, et puisque ce sacré est un sacré catholique, on ne va pas nier le fait religieux. Voilà. Simplement, la République nie ce phénomène religieux-là. Donc, la République, si vous voulez, c'est bizarre parce que ce sont des frontières nationales qui ont une valeur, transcendante. La République vous appelle et pour elle, un Français doit mourir. Bon, donc qui ont une valeur transcendante. Mais en même temps, cette transcendance a quelque chose de non sacré. Voilà. Donc, moi, je vis moins bien.
Ou de si faux vous voulez, sacré.
Ou de, oui, alors après, voilà. Voilà, donc ça, je comprends ce que vous dites, je suis d'accord. Moi, je vis moins bien, si vous voulez, une sorte de cohérence de ma personne dans la communauté en République qu'en monarchie. Voilà.
Vous avez raison, la République a gommé le sacré, mais en fait, elle a remplacé par un autre sacré et qui est encore plus... Oui. Absurde, voire complètement débile par endroit. Et pour revenir à vous, le sacré sera dans la... Ils vont finir panthéistes à ce rythme. Ouais. Mais pour revenir à vous, c'est intéressant parce que, alors vous dites, pas parler de monarchie, mais
c'est surtout un sacré horizontal.
Vous comparez quand même beaucoup la monarchie et la République. Tout au long, c'est intéressant. J'aurais plein de questions plus perfides pour vous. Mais d'abord, si vous parlez, si justement de la République, c'est-à-dire pas en super bons termes, c'est parce que vous l'avez bien connu. Vous écrivez même que vous avez cru longtemps à cette organisation, à cet idéal de régime. Mais à quel moment précisément s'est fait la bascule? À quel moment vous dites en fait le truc est foireux, on va revenir au royaume?
Ah ben, alors je suis lent, mais je pense que 10 ans après le début de Mitterrand, donc disons 90, là je commence à me dire...
Bicentenaire.
Pardon ?
Au bicentenaire.
Oui, au bicentenaire, oui. Ah ouais, 80... Alors, ouais, voilà. Good, je me suis dit, c'est quoi cette... Enfin, le défilé sur les choses... C'est quoi ce mélange de Philippe Muret et de transcendance républicaine ? Ce festif à base de société de consommation, enfin, ce festif qui ne peut avoir d'existence que dans une société de consommation, et en même temps... le rappel des grandes valeurs humanistes générales. Donc, il y avait quelque chose dans le bicentenaire de très profondément bidon.
Et au sens qui était concomitant avec le réveil d'historiens comme François Furet, qui d'un seul coup profitait de l'événement pour rétablir des vérités négligées ou oubliées sur la terreur, la Révolution française.
Non, mais ça, François Furet, heureusement qu'il a été là. Oui. Ouais. Bon. Et donc, je dirais à ce moment-là, il a commencé à s'installer un doute. Simplement, donc à ce moment-là, j'étais encore tout frais et moulu. Moi, je un gandin.
Sciences Po laisse des traces. Hein.
Oui, voilà. Et donc, je restais dans l'idée, comme pas mal de gens, ce que j'écris, c'est-à-dire que, bon, si vous voulez, un chevènement à gauche ou un Seguin à droite était capable de rappeler les grands principes gaullistes, même si chevènement, c'est... Voilà, finalement, c'était un gaulliste de gauche, quoi, Chevènement. Et même chose pour Seguin, était capable de rappeler les grands principes et que ça remettrait la France sur les rails de cette espèce de monarchie élective dans laquelle nos libertés étaient assurées. Beaucoup mieux assurées qu'aujourd'hui, je trouve. Sous De Gaulle qu'aujourd'hui. Sous De Gaulle, je rappelle, il y a eu 10 référendums. 10 référendums. Aujourd'hui,
il n'y en a pas
jamais.
Eu un en 10 ans.
Et en plus, quand on a fait. Enfin bon, chacun sait bien que le référendum sur l'Europe qui a été transformé. Enfin, auquel les Français
2005,
ont appelé, non, ouais. de 2005, ça a été une escroquerie démocratique incroyable. Donc, nous étions plus libres. Voilà, c'est ça que je veux dire.
Alors, il n'y avait pas les lois liberticides, De Gaulle.
Pas encore. Donc,
tout le dispositif liberticide, il commence à partir de 1972. Donc après De Gaulle.
Oui, après.
Alors. La monarchie.
Il a interdit Michel Sardou. Donc, bref, il n'avait pas besoin. Quoi.
Ah,
oui, c'est pardon, vrai. Oui. Il a interdit Michel Sardou.
Pas de loi liberticide, mais c'est celui-là, on a interdit.
Tyran.
Il y avait l'ORTS.
Ça m'avait échappé.
Si les Ricains n'étaient pas là, ça a marché parce qu'il l'a interdit.
Cela dit, donc la monarchie, par définition, enfin j'imagine, ne peut que être au-dessus des partis.
Oui.
Néanmoins. Est-ce qu'on peut imaginer une monarchie qui défende le wokisme avec, un roi-reine, un rouenne, pour parler la langue inclusive, sur le trône? Est-ce qu'au fond, la monarchie, l'idéal de la royauté n'est pas quand même un peu de droite? Ou alors, fondamentalement même de droite, pour paraphraser Richard de XVI.
Comme sa belle-mère.
Non mais le roi ne peut pas être intelligent à la place des Français. Donc, si effectivement vous avez beaucoup de choses idiotes qui sortent dans le débat public, le roi n'y peut rien. Le roi doit être central et conservateur. Central, ça veut dire que central, pas au sens centriste. J'ai dit central.
Ni jacobin.
Ni jacobin. Hein, oui. Au contraire, le roi, il est pour les libertés communales. Le roi est pour les libertés communales. Il est pour les libertés des provinces. Il aime la démocratie locale. Voilà. Pour un principe de subsidiarité à l'intérieur du royaume, et il aime aussi que la République soit une République forte. Louis XVI n'avait que le mot République à la bouche, une République forte, c'est-à-dire des institutions fortes, Conseil d'État fort, une Cour des comptes forte, une Assemblée forte, etc., etc. Que le gouvernement, que les institutions de la République soient fortes, ne gêne en rien le monarque. Le monarque, lui, ses trois vocations, c'est au fond le long terme. Après ce gouvernement, qui va durer 5 ans, il va y avoir d'autres gouvernements, d'autres gouvernements, d'autres gouvernements, d'autres gouvernements. Et la monarchie, c'est ce qui fait tenir le pays dans la grande durée. C'est ce qui plante les chaînes, si vous voulez. Donc il faut qu'il y ait des compétences particulières au monarque qui soient liées au long terme ou au très long terme. Et puis, les Français ont des choix politiques. Ils préfèrent une politique plus libérale que sociale à un moment, plus sociale que libérale à un autre moment, et très bien, et ça tourne. Mais ça tourne, et ça crée des accidents, ça crée des problèmes, etc. Mais il n'y a plus, si vous voulez, il n'y a plus cette espèce de problème de la vie politique qui est que l'accidentel est la norme. L'accidentel, c'est-à-dire les 5 ans de Macron, dans lesquels il va y avoir des problèmes qu'on ne connaît pas encore au moment où ça commence, ça fait une sorte de séquence et on a l'impression que l'horizon politique de la France s'arrête là. Et donc c'est pas possible ça, c'est pas possible.
C'est là où, on trouve votre fusion possible entre la royauté et la République au sens, et la démocratie, au sens où le Premier ministre endosse, n'est plus président, un Macron ne serait que Premier ministre, il n'endosse pas le côté transcendantal du Royaume et de la France, il est simplement un gestionnaire pour 5 ans.
Tout à fait. Ouais. Alors que les présidents de la République aujourd'hui sont des gens qui essayent désespérément d'imiter Saint-Louis et qui n'y arrivent pas parce qu'en fait, on ne peut pas faire un Saint-Louis qui ne soit pas catholique, si je peux dire. Or, la République est laïque et donc ils n'y arrivent pas. Donc, ils ont eu, les cérémonies d'intronisation des présidents de la République sont des cérémonies grotesques. Grotesques, c'est-à-dire du point de vue de la symbolique, ça ne correspond à rien. Le truc de Macron dans lequel il défilait dans des espèces de... Enfin, pardonnez-moi, mais de symboles maçonniques et puis aussi de symboles impériaux et puis aussi... Ça n'avait aucun sens. Mitterrand, à la limite, c'était un peu plus sobre. C'était débraillé, mais c'était sobre. Mais Giscard, c'était ridicule. C'était vraiment le bourgeois gentilhomme avec ses 21 coups de canon, quoi. Mais donc, les présidents de la République n'y arrivent pas.
parce que c'est pas leur boulot sur Terre que de dire aux Français, nous sommes une communauté marquée par une religion, par un territoire et par une unité profonde entre nous qui est fondée sur notre passé, sur notre devenir commun. C'est pas le boulot, et c'est pas le boulot du président de la République. Et le roi, en tant que gardien de ce que je viens de dire, a une position d'arbitrage, a une position centrale. Voilà. Et a une position dans laquelle il a des pouvoirs pour lancer des initiatives de long terme. Alors, pas seulement des trucs un peu anecdotiques comme planter des forêts de chênes, si vous voulez, des choses plus importantes. Plus importante.
Les forêts d'ifs, même. Parce que les ifs ifs faisaient des arbres souples qui pouvaient faire des mâts de navires. Mmh. C'est vrai.
Okay. Non, mais je sais qu'il y a beaucoup de thèses sur la marine française qui sortent en ce moment à cause des 400 ans. Oui. Ah, je...
Arthur de Vatrigan avait une question.
Oui, comme vous parlez justement des. J'allais dire pas des funérailles, mais si, parce que je vais parler des funérailles après, mais de cette cérémonie d'intronisation. Et en même temps, vous expliquiez au début que vous avez interrogé. Plutôt les élites, et que vous auriez bien aimé interroger plus de Français en bas. Alors, on a une réponse pour le bas, et ça m'ennuie de le dire parce que ça concerne les Anglais, mais quand même, on a eu les funérailles d'Elisabeth II, le sacre de Charles III, voilà, c'est ça, qui ont été diffusés sur les chaînes d'info en continu, qui ont fait l'objet de reportages pendant 3 jours, et qui ont battu des records d'audience.
Oui.
Bon, c'est bien la preuve que les Français ont soit une mélancolie, soit une appétence pour ça. Et donc, l'autre question, la question m'amène, la question que je vous posais est celle-ci, c'est est-ce que seule la monarchie peut permettre à une société d'être éternelle? C'est-à-dire, comme, là je vais me la péter, comme dirait Cicéron, comme l'avait écrit Cicéron dans les lois plutôt, l'homme peut mourir, mais la société pour garder, pour être, rester dans l'éternité, je la cite de mémoire, doit être instituée. Or, qu'on voit, et vous l'avez dit, les institutions de la République ne font pas rêver, alors que les institutions monarchique, même anglaise ou même quand c'est les Anglais, malheureusement, on voit que ça perdure. Est-ce que seule la monarchie pourrait permettre à la France de rester jusqu'à la fin?
Ouais. Alors, écoutez, je vais vous répondre de la façon suivante. Dans mes émotions politiques, parce qu'il y a des émotions politiques, il y a l'idée de beauté. C'est-à-dire que dans la manière dont je me détermine dans mes choix politiques, il y a la raison. Je regarde les programmes, je regarde les histoires intellectuelles des différents partis, etc. Et puis il y a aussi la beauté, et la beauté, c'est la beauté morale des choses. Et puis, cette beauté morale, en général, elle donne des formes, des expressions, des styles qui touchent ou qui ne touchent pas. Bon. La République arrive à faire des choses. J'en parle beaucoup dans mon livre. Elle arrive à faire des choses. Mais c'est quand même beaucoup moins bien que la monarchie. Alors quand je dis la République arrive à faire des choses, le côté, la République, disons, prise largement, mais le côté haussmannien, si vous voulez, grassouillet, prospère, bourgeois triomphant, je sais pas moi, orléaniste justement, ça fonctionne, ça produit quelque chose de très énergique, si vous voulez, c'est la statue de Pasteur, avenue de Breteuil, c'est tout ça, mais quelque chose de très énergique, de sympathique, de plein d'allant, d'entrepreneurial. Et la République s'est accrochée, parce qu'on a des bons artistes, tout simplement, s'est accrochée à ça, quelque chose qui ressemble à une esthétique un peu, disons, sinon enthousiasmante, en tout cas entraînante. Voilà. Mais l'esthétique de la monarchie, c'est quand même beaucoup plus intéressant, ne serait-ce que parce qu'elle est, liée à l'esthétique de la religion. Bon, donc on voit bien que les sacres, par exemple, sont des sortes de sommets de la proposition esthétique collective. C'est incroyable, un sacre. C'est incroyable. Bon, donc cette puissance esthétique-là se retrouve dans l'appétence politique que j'ai pour la monarchie. C'est-à-dire que je me dis qu'un régime qui arrive à produire un tel spectacle, qui n'a rien à voir avec le spectacle du totalitarisme, qui est un spectacle en fait où l'homme et la dignité de l'homme et la grandeur de l'homme est au centre de ce que l'on voit. Bon. Donc c'est le contraire du totalitarisme où ce sont des robots avec des mâchoires crispées et des casques à pointe qui sont alignés comme à la parade. C'est le contraire de ça. Donc le catholicisme royal est très profondément anti-fasciste et il dépasse de loin ce que peut faire la République en termes de propositions esthétiques. Moi, c'est tout ce que je dis. Euh, mais, Mais dans ce que je dis là, on voit bien qu'il y a aussi derrière une certaine conception de l'homme, il y a aussi une certaine conception de la communauté, il y a aussi une certaine conception de la finitude, et il y a aussi une certaine conception de l'infinitude.
Alors, avant de donner la parole à Jean-Yves Le Gallou, je voudrais vous poser une question,
oui,
un peu perfide.
Dites.
Non, mais j'ai
les
été...
souvent les ennemis du royaume
monarchiste.
Sont perfides. Vous avez été monarchiste?
Oui.
Oui, d'accord.
Et j'ai beaucoup de sympathie pour la royauté. Néanmoins, est-ce que le Royaume-Uni et la Belgique, bien que monarchie donc, font réellement mieux, sont dans un état réellement meilleur que la France républicaine? Et Dieu sait que je n'ai pas de sympathie pour la République macroniste. Mais je ne suis pas absolument certain que le fait d'être une royauté garantisse de manière certaine, ou en tout cas une monarchie constitutionnelle, un bien-être supérieur, de manière garantie et scientifique, comme disait Charles Maurras.
Non, mais vous avez... Enfin, je suis d'accord, l'histoire de la France... Il n'y aurait pas eu Jeanne d'Arc, Charles VII, il serait resté à Bourges, Bourges aurait été pris par les Anglais, il n'y aurait plus eu de Royaume de France, sauf qu'il y a eu un Royaume de France. Donc, il faut croire que l'histoire est providentielle. Il n'y aurait pas eu de Gaulle, il n'y aurait pas eu de 5e République. Enfin, il n'y aurait pas eu de Gaulle en juin 40, il n'y aurait pas eu de 5e République. Bon, donc, à votre remarque, j'ai envie de répondre, au fond, je ne sais pas si la France serait dans un meilleur état qu'elle n'est aujourd'hui s'il y avait ce système harmonieux entre le royaume, la république et la démocratie.
Ouais, mais que je même crois les possible. Monarchies constitutionnelles d'aujourd'hui, l'Angleterre et la Belgique, sont-ils mieux que nous aujourd'hui?
Alors,
je ne suis pas certain.
Alors, à ça, je répondrais que bon, la monarchie belge, comme vous le savez, est d'origine orléaniste. Hein, voilà. Non, mais c'est vrai. Et, non, mais c'est le roi des Belges. C'est
Belges. Et voilà. Et surtout horriblement récente.
Alors. De surcroît.
Comme celle d'Angleterre.
Non, non, mais
et,
moi,
celle d'Angleterre est assez ancienne.
Et les Belges n'existent pas.
Dès qu'il y a un roi, alors ça, je pense pas. Mais bon,
les Belges n'existent pas. Il y a des Flamands, il y a des Wallons.
C'est vrai que la Belgique est plus un péage qu'un pays.
Bon, non, vous êtes. Là, je ne suis pas d'accord. Avec vous tous, je ne suis pas d'accord. Non. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour la monarchie belge, mais c'est vrai que c'est une monarchie d'origine orléaniste. Et donc, quand ça a été fabriqué avec une sorte d'intention très particulière et qui n'a rien à voir avec...
Un état tampon, pour dire les
choses. Très particulière et qui n'a rien à voir, disons, avec... l'idée que je me fais de l'instauration d'une monarchie aujourd'hui en France, dans laquelle justement on profiterait du fait qu'il y a une page vierge pour donner au roi des prérogatives sur le long terme. Donc ça, c'est pour la Belgique. Pour l'Angleterre, n'oublions pas que les Hanovre, et puis tous ceux qui les ont précédés, ont été quand même considérablement réduits dans leurs prérogatives par le parlementarisme anglais. Et que donc, là aussi, c'est le fruit de l'histoire. Mais si on a la chance de pouvoir instaurer quelque chose, à ce moment-là, profitons-en pour éviter de transformer notre monarchie en agence de tourisme. Ou en... comment dirais-je, en discours surplombant, qui dit des choses sympathiques et consensuelles, mais qui ne peut pas réellement agir sur les décisions publiques. Mmh. Voilà, donc voilà comment je répondrais. Mais évidemment, si la France doit aller mal, parce que c'est l'histoire qui veut ça, parce que c'est l'esprit public qui veut ça, c'est l'économie qui veut ça, etc., le roi ne fait que... partager le sort des Français. Oui. Non, mais ne fait que partager le sort des Français. Mais le fait qu'il soit là est, à mon avis, très important pour le surmoi politique des Français. Pour une raison très simple, d'ailleurs, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais le fait que le plus important des hommes politiques qui va agir pour les 5 ans à venir dans le cadre d'un mandat électif soit le numéro 2 et non pas le numéro 1 du régime politique français, ça évacuerait, mais énormément de problèmes qu'on a. D'abord le fait que les gens qui veulent devenir président de la République en France ont un problème psychologique. C'est-à-dire qu'en fait, ils deviennent des espèces de rois, effectivement. Quand ils ont parlé, plus personne n'a le droit de parler. Quand ils ont décidé, plus personne n'a le droit de lever le doigt. Quand ils sont là, dans leur grand conseil de défense, dans leurs Airbus, etc. Je pense que l'idée d'arriver là rend les gens complètement dingues. Bon, quand ils y sont, ça les arrange pas, et donc il y faut en fait à la fonction de président de la République une force personnelle, une capacité à résister aux tentations de l'amour propre, qu'un homme comme De Gaulle avait, parce qu'il était passé par les tranchées, parce qu'il s'était évadé, je ne sais pas combien de fois, de son camp de prisonniers, parce qu'il avait tout seul dans un deux-pièces cuisine, comme disait Régis Debray, refait la France à Londres. Bon, là, on n'a plus de problème d'amour propre. Mais vous prenez, comment dirais-je, un petit démagogue parvenu qui arrive à la présidence de la République avec toute la symbolique qui va avec et tous les pouvoirs qui vont avec. C'est pas bon. C'est pas bon pour les Français. Et c'est pas bon pour lui,
Sarkozy.
En plus.
Pardon. Voilà.
Pardon.
C'est pas sympa pour Sarkozy.
Ah, je ne l'ai pas directement associé à cette description.
Si c'est pensé à Sarkozy, il y avait beaucoup de gens auxquels on pouvait...
Mais j'ai une question, parce que...
Question sur l'Angleterre, et je trouve qu'on a à peu près traité le sujet. Je voudrais juste faire peut-être une observation complémentaire. La reine d'Angleterre, elle a reçu ses premiers ministres pendant plus d'un demi-siècle. Je ne pense pas que ça ait changé beaucoup l'évolution de la Grande-Bretagne. Et ce qui est quand même frappant dans les sacres ou les funérailles, qui sont effectivement de très belles cérémonies, c'est que ça touche le peuple anglais historique et non pas les autres.
Oui. Ah bah ça, si vous voulez parler de la, comment dirais-je, de la trahison des élites, il faudrait faire plusieurs émissions, mais on va pas le faire.
Je pense que la question de Jean-Yves, elle est différente, c'est-à-dire, en fait, vous venez greffer une nouvelle monarchie, non pas sur une page vierge, mais sur une page déjà bien écrite, raturée, un véritable palimpseste, mais avec cette dimension nouvelle qui est quand même d'une ethnologie différente.
La société multiculturelle, pour dire
tout
simplement.
Cet éloge de la diversité dont vous plaisantiez tout à l'heure.
Oui, oui.
Maintenant, il faut devenir sérieux.
Oui. Non. Je pense que la monarchie est un projet qui n'a de sens qu'à partir du moment où il y a une certaine cohésion, si ce n'est ethnique, au moins nationale. Voilà. Ça veut dire qu'il faut que les Français sentent que la France peut être... grande, belle et renouée avec une histoire qui soit une histoire glorieuse. Et alors, glorieuse pas au sens militaire, mais glorieuse au sens des plus hautes valeurs de l'homme et de la civilisation. Voilà. Donc si personne n'a envie que la France soit au niveau des plus hautes valeurs de l'homme et de la civilisation, alors le projet monarchique est complètement foutu. Mais complètement foutu, ça n'existe même pas. Et si la société est durablement divisée, comment dirais-je, dans l'état de violence que vous avez décrit dans votre propos introductif, alors bon, bah, ça ne marche pas. Bien sûr, ça ne marche pas. Ça marche pas. C'est pour ça que l'esprit public est pour moi absolument fondamental dans cette affaire. Il faut aimer la France, il faut l'aimer d'une certaine manière pour être monarchiste.
Justement, pour expliciter ce que vous dites, est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence ou la distinction que vous faites entre la grandeur et la hauteur? Parce que je trouve que c'est assez éclairant sur la différence de la République et la monarchie, évidemment. Ouais. Et puis surtout la mauvaise interprétation qu'on a du pouvoir.
Oui, c'est drôle parce que spécifiquement, c'est un point que j'ai discuté avec Yves de Gaulle. Si de Gaulle avait fondé une monarchie à son nom, si je peux dire, Yves de Gaulle serait roi de France. Donc, bon. J'ai discuté avec lui de cette question de la grandeur. Et en fait, la grandeur telle que je la conçois, vous me pardonnerez ce que mon propos ad rustique, mais elle se distingue de la hauteur. La hauteur, c'est le surplomb, c'est l'idée que je suis supérieur à ou je suis inférieur à. Stendhal avait une phrase géniale, il disait « Avant d'aimer, j'étais petit parce que j'étais tenté de me croire grand ». À partir du moment où j'ai aimé, je suis devenu grand parce que je me suis senti petit en général. Pas petit par rapport à quelqu'un, mais petit en général. Donc la grandeur, c'est en fait tout simplement le fait de vouloir s'élever à hauteur des sentiments humains les plus élevés. Voilà. Je veux m'élever à la hauteur des sentiments humains les plus élevés. Donc la grandeur a quelque chose de religieux. Et je pense aussi que, vous voyez par exemple chez Balthazar Gracian, qu'on a déjà cité tout à l'heure, la grandeur c'est vraiment cette idée qu'il y a il y a deux instincts chez l'homme au fond. Il y a l'instinct de déballonnage, le truc où on se met en jogging pendant toute la journée, en regardant Netflix et en piquant dans des bols de cacahuètes. Donc ça c'est, voilà, tout cet esprit-là. Et puis l'autre esprit qui est l'esprit de Rehaut, dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'esprit d'élévation. Bon. La grandeur, c'est l'esprit d'élévation à la Balthazar Gracian, c'est ça. La hauteur, c'est autre chose. La hauteur, c'est une forme de, comment dirais-je, de raidissement, de surplomb. Bon, voilà.
J'ai plein de questions, plein de phrases.
Après, on va lire les questions d'auditeurs, mais vas-y.
Il y a beaucoup de choses très intéressantes. Il y a des choses qui agacent, évidemment, c'est ça qui est bien sympathique, sûr. Mais des choses très intéressantes et très belles et très surprenantes. Et je voulais en lire une, mais c'est de vous, donc vous reconnaîtrez. Hein. Même si nous étions condamnés à la prospérité, nous serions déçus. Parce que la monarchie est une solution à des problèmes concrets, précisément parce qu'elle est poétique.
Oui.
Concrètement, c'est quoi ces problèmes en quoi la poésie sauve ou répond à des problèmes concrets?
Est-ce que vous abordez la journée que vous allez vivre avec la même intensité, la même présence d'esprit, la même vivacité, suivant que vous avez été touché le matin par une image poétique, que ce soit la personne avec qui vous partagez votre existence, qu'une chanson de Leonard Cohen, voilà. Évidemment, non. Et donc, la portée pratique, si vous voulez, de cette espèce de beauté du royaume dans la vie de chacun, c'est tout simplement qu'il y a plus d'enthousiasme. Enfin, n'importe quel dirigeant d'organisation comprendrait ce que je veux dire. Enfin, comprend ce que je veux dire. L'élan qu'on peut avoir dans sa vie change tout des actions que l'on met en œuvre. L'enthousiasme, voilà. C'est ça que je veux dire. La monarchie est efficace politiquement parce qu'elle est poétique. Ça veut dire que sa mystique, son esthétique, commande d'une certaine façon les actions de la sphère politique. Voilà. Regardez les séances dans lesquelles il y a une interaction entre la monarchie et le Parlement en Angleterre. Il est évident que sans cette interaction, les propos tenus, les réflexions, l'état d'esprit général dans lequel on aborde les points en discussion serait complètement différent. Voilà.
Alors, on a quelques messages d'auditeurs. Marraine Viry, donc oui. Je rappelle qu'on vous reçoit pour la publication de Notre Royaume, enquête sur l'actualité de l'idée monarchique. Est-ce qu'il vous reste quelques minutes supplémentaires à nous consacrer par rapport à l'horaire prévu?
Oui.
Quelques-unes, hein, on ne va pas vous reprendre une heure, mais... 10 minutes.
Oui, ouais, okay.
Ça permet de...
Très bien. On va commencer par la question la plus soutenue, la plus élevée. Bonsoir, si je suis l'anacyclose du grec Polype de Mégalopolis, nous devons être dans le cycle de l'oclocratie, ou pas loin, bonne nouvelle, le cycle qui suit et permet un équilibre, c'est la monarchie. Oclocratie, donc le gouvernement des médiocres.
Oui, voilà. Oui.
Bravo à votre invité qui se penche sur la manière d'y revenir. Aurais-je la joie de devenir sujet de sa majesté avant ma mort? Là est la question. Donc, à votre avis. Donc,
On
est dans le règne de la médiocrité et la monarchie, c'est pour bientôt ou pas? C'est 10-15 ans que vous évoquiez tout à l'heure.
Oui.
C'était pour les assyro-babyloniens, j'ai bien compris.
Il faudrait quand même qu'il y ait beaucoup de bouleversements. Voilà. Bon, alors après, les partisans du royaume ne sont pas prêts. Hein, il faut quand même le dire. Ils ne sont pas prêts, ils sont divisés, ils n'ont pas véritablement de propos. J'ai l'impression, moi j'ai articulé deux ou trois idées, de propositions constitutionnelles dans mon livre, mais enfin, je ne suis pas non plus un constitutionnaliste distingué, et de la même manière, je ne suis pas non plus un organisateur de parti. Donc, il faudrait un jour que des esprits pratiques se réunissent pour que cette proposition existe dans le débat, et qu'elle franchisse les obstacles.
Jean-Yves Le Gallou.
Est-ce que d'un certain point de vue, De Gaulle n'a pas manqué le coche en ne rétablissant pas la monarchie? Ce qu'il avait peut-être la possibilité de faire, avec effectivement une monarchie de fait qui aurait quand même été constitutionnelle.
Mais au profit de qui surtout? Au sien ou à celui du comte de Paris?
Ah non, celui d'un capétien, non?
Alors, il y a,
Les siens, il y aurait beaucoup à dire.
Oui, ça a tellement pas marché que les trois hypothèses circulent, c'est-à-dire l'hypothèse légitimiste, l'hypothèse orléaniste et l'hypothèse pour lui-même. Voilà. Bon, moi, j'ai entendu les trois hypothèses. Il y a des gens forts, très sérieux, qui m'ont parlé des trois hypothèses, documentées, pas documentées, etc.
Encore une fois, Mérové, ou Clovis, les Pipinides et Bonaparte.
Oui.
Est-ce que Bonaparte aurait pu être... est-ce qu'un néo-Bonaparte, on parle de nouveau régime, c'est-à-dire quelqu'un qui prend et qui estime que l'onction divine, c'est la victoire, et qu'ensuite, il respecte les principes du royaume?
Alors, il ne faut pas confondre la monarchie avec l'aventure césariste. Pas du tout. Ce n'est pas du tout la même chose. Je ne dis pas que l'Empire n'ait pas produit des résultats intéressants, surtout pour les gens qui l'étudient a posteriori, mais pas forcément pour ceux qui le vivaient. Mais,
c'était mieux que la terreur.
Oui. Ah bah bien sûr. Oui, non, c'était une tentative de synthèse, etc. Je ne plaisante pas avec l'Empire, mais simplement ce que je crois, c'est que ça correspond au fond à cette idée que c'est grâce à l'autorité qu'on va se sortir, c'est grâce à l'autorité d'abord, l'autorité venue d'en haut, l'autorité militaire, l'autorité du père de famille, l'autorité de tout ça, qu'on va s'en sortir. Et moi, j'espère qu'on ne s'en sortira pas par l'autorité, mais plutôt par... par l'autorité, mais par une autorité qui laisse les gens vivre, pas par une autorité qui règle toute la société, comme le code civil de Napoléon, si vous voulez. Voilà.
Oui, c'est plus chrétien, c'est-à-dire l'amour et la beauté, ce qui est un peu des principes qui irriguent réellement votre vie.
Oui, bah lui n'était pas très catholique.
Non.
Enfin, ça correspond bien à un royaume qui a sur ses armes les fleurs de lys et pas un aigle ou un dragon.
J'évacue d'ailleurs tout à fait.
Ou un lion.
J'avoue que j'évacue même tellement que je n'en parle pas d'une certaine façon.
Il y a d'autres questions qui tournent tout autour de la question du prétendant, vous nous pardonnerez. Comment ça, il n'y a pas d'arrangement à trouver entre les soi-disant prétendants? Les lois de la dévolution de la couronne existent, elles sont précises. En France, tuer le roi ne sert à rien, il y en a toujours un. Donc, il y a quelques légitimistes comme ça. Voilà, un autre qui nous dit, j'ai vu une vidéo de Louis de Bourbon à la marche pour la vie. Si on lui demandait, il serait prêt à être roi, disait-il, il est pour la vie et il aime la France.
Bah, c'est-à-dire qu'il a compris ce qu'il a dit, quoi.
En tout cas, il l'a dit, lui. Voilà. Sur le fait qu'il y a visiblement un gros pourcentage de légitimistes qui nous écoutent, une réaction.
Je les salue et je leur témoigne toute l'affection possible. De la même manière que s'il y avait beaucoup d'Orléanistes qui nous écoutaient, ça serait la même chose. Débrouillons-nous pour que cette situation scandaleuse, parce que c'est quand même un peu plonger ceux qui aiment l'idée monarchique dans une sorte de conflit de loyauté digne d'un vaudeville, quoi, un peu. Et donc ce serait bien qu'on... On s'en sorte.
Et le tout premier message était une citation de Maurras. Les rois ont fait la France, elle se défait sans roi. Donc voilà, j'entends bien que vous voulez qu'il rentre dans les profondeurs de l'histoire, mais il y a quelques-uns qui ont l'air de le faire ressurgir.
Oui. Enfin, au risque de relancer le débat, je dirais quand même, Maurras, il n'a pas fait du bien aux deux causes qu'il a soutenues, c'est-à-dire la monarchie et le catholicisme. Ni à l'une, ni à l'autre. Il n'a fait du bien ni à l'une, ni à l'autre. Bon. Après, c'est sa faute, c'est pas sa faute, c'est intéressant ce qu'il dit, c'est pas intéressant ce qu'il dit. Il a un héritage, il a pas d'héritage, il s'est conduit comme il s'est conduit, c'est bon, très bien. Mais au bilan, Maurras, c'est pas bon du point de vue des causes qu'il prétendait défendre. C'est tout. Bon, après, Staline, c'est pas bon du point de vue des intérêts généraux du communisme. Néanmoins, c'est une figure importante, voilà. Bon, voilà.
Hitler non plus pour les antisémites. C'est mieux.
C'est... Maurras, comme le disait Bernanos.
Absolument, c'est à lui que je pensais. Mais Maurras, j'y pensais quand même un tout petit peu parce que c'est peut-être vrai, c'est peut-être vous qui avez raison, il y a un côté historique chez le personnage et c'est pour ça que je vous trouvais très sévère avec lui parce que peut-être un peu injuste au sens où je pense que son côté, notamment scientiste, vient du fait qu'il vit à une époque du scientisme. C'est-à-dire Karl Marx est scientiste, beaucoup de penseurs sont scientistes. Le scientisme, c'est la révolution industrielle au galop, quoi. Donc, d'un seul coup, tout le monde pense qu'il faut être scientiste parce que c'est comme ça qu'on vit et que c'est là que se trouve la vérité. Et en plus, il n'est pas chrétien. Donc, peut-être aussi qu'il perd cette transcendance que vous essayez d'instiller dans notre royaume et que lui n'avait pas et qu'il essayait peut-être d'avoir, mais qu'il n'avait, enfin, qu'il a eu.
À la fin de sa vie. J'entends venir quelqu'un. Ouais.
Mais c'est un homme de son temps, en fait. Ouais. Et c'est peut-être là l'erreur, c'est-à-dire de croire qu'effectivement, il n'avait pas prévu l'intelligence artificielle, des choses comme ça. Quoi. Et c'est...
Non, mais vous avez raison de dire que je suis injuste avec Maurras, mais parfois les conservateurs, vous savez, préfèrent l'injustice au désordre. et moi, je préfère là, du coup, être un peu injuste avec Maurras en disant, bon, allez, on le met au purgatoire pendant 30 ans, on y reviendra, il y aura des professeurs à la Sorbonne qui s'intéresseront à lui.
Et j'ajoute qu'il vient d'un monde qui est celui de l'action française, donc de l'affaire Dreyfus, et avant...
la prise de connaissance de génocide juif, des camps de concentration, etc. Il n'en a pas su quoi que ce soit, objectivement.
Oui, ben non, mais ça, tout ça doit être documenté sérieusement.
Mais j'ai une question sur les... Vous avez dit que les sujets du royaume, en tout cas, je pense que vous rencontrez, que vous avez interrogé, ne sont pas forcément prêts à devenir sujets du royaume.
Non, pas vraiment. Non.
Mais en même temps, vous dites que ce qui caractérise notre époque, c'est l'indifférence politique. Bon, je me dis, indifférence politique, c'est le moment de foutre un roi et qu'il prenne le pouvoir. On va pas mettre d'Orléans et Pépito dans un
octogone.
Louis de Bourbon dans un octogone à Chifoumi pour savoir qui va gagner. Non, il y en a un qui se prend et puis voilà. Mais est-ce que vous parlez de désintérêt politique? Est-ce que c'est une dépolitisation du fait qu'ils sont plus intéressés par la chose publique ou une dépolitisation du fait qu'ils ont plus sentiment d'appartenance à une communauté politique? Parce que c'est vraiment deux choses différentes et moi, je sais pas laquelle est juste entre les deux. Parce que j'ai plutôt le sentiment que les Français sont très intéressés par la politique, mais n'appartiennent plus, n'ont plus le sentiment d'appartenir à une communauté politique.
Alors, si la politique, ça consiste à dire « je fais partie d'un clan » et la manière dont les intérêts de ce clan sont portés par le leader de ce clan, et si le leader de ce clan est performant, alors je suis content. Si le leader de ce clan n'est pas performant, alors je ne suis pas content. Mais l'important, c'est que mon clan l'emporte sur les autres clans. Je n'appelle pas ça faire de la politique. J'appelle ça poursuivre des intérêts dans une, comment dirais-je, dans une vision purement sociologique de la politique. Sociologique, c'est-à-dire il y a des groupes qui ont des intérêts et ces intérêts ne sont pas les mêmes d'un groupe à l'autre. C'est ça qu'étudie la sociologie. C'est comment un groupe arrive à mieux capter que les autres la ressource. Bon. Donc ça, c'est pas de la politique, c'est de la politique, comment dirais-je, pilotée par la sociologie. Et je n'appelle pas ça être politique. Être politique, c'est être un homme ou une femme engagé dans une communauté et qui sait que sa réalisation, Saint-Augustin, hein, et qui sait que sa réalisation vient de son engagement dans la communauté. Et non pas engagé dans une communauté qu'il doit faire triompher sur les autres communautés. Donc voilà comment je répondrai à votre remarque.
Donc c'est la communauté politique.
C'est la communauté politique. Alors, la communauté politique. Oui,
en parlant des gens justement, comment vous voyez, on vient beaucoup de parler du roi et des principes monarchiques, mais il y a la société aussi qui constitue le royaume.
Ouais.
Est-ce que, j'aime bien me projeter, je comprends bien que c'est pas forcément réaliste, mais est-ce que dans votre royaume, dans votre idéal du royaume, on rétablit une société d'ordre par exemple? Parce qu'il faut bien une aristocratie au royaume. Est-ce qu'on rétablit un clergé? Est-ce qu'on rétablit une société d'ordre? Et qui en fait partie?
Non, mais c'est-à-dire que ce qu'il y a d'agréable dans une monarchie, c'est que quand vous avez une grandeur naturelle qui est là, on peut dire que cette grandeur naturelle, il est important pour la société qu'elle devienne une grandeur d'institution. Et donc, on peut dire que, par exemple, quelqu'un qui a fait des choses que l'on considère comme exemplaires pour la communauté passe d'une grandeur naturelle, personnelle, si vous voulez, à une grandeur d'institution. Et donc, par exemple, moi, je regrette beaucoup que l'ennoblissement ait disparu. Mais évidemment,
l'ennoblissement ouvert, héréditaire, ou comme en Angleterre, pour le temps d'une vie et ensuite la descendance n'en hérite pas?
Écoutez, on peut imaginer un ennoblissement héréditaire conditionnel, c'est-à-dire que si tout... Non mais c'est vrai, c'est-à-dire si tous les... On peut dire qu'une famille est noble, sauf si...
Sauf si elle est de gauche.
Sauf si elle est de gauche.
Ça élimine le problème.
Ouais. Non, non.
Pour le moment, il y a une aristocratie de gauche qui se transmet de génération en génération.
Oui, il faut abolir ça.
Oui.
Il faut abolir ça. Oui, donc enfin, la conclusion de cette émission, c'est qu'il faut abolir les privilèges de gauche.
Les privilèges de gauche. Ça, c'est assez consensuel.
Bon, une dernière question peut-être. Ouais. J'ai beaucoup de choses, je vais en garder parce que j'ai rien à faire dans l'entretien.
Un entretien après.
Plus intéressant dans la collègue.
Ah,
je garde les bonnes questions
profiteurs.
Bon, côté de gauche.
Marat Viry, merci beaucoup d'être venu à Radio Courtoisie pour parler de
merci
notre royaume. L'enquête sur l'actualité de l'idée monarchique aux éditions Salvator. Donc le fruit d'une cinquantaine d'entretiens avec des personnalités comme Louis de Bourbon, comme Jean-Christophe Buisson du Figaro Magazine, Yves de Gaulle, donc Frédéric Becbédé.
ça vous a.
Des éditions
Ah ben si, justement, j'ai une dernière question. Parmi toutes les personnes que vous avez rencontrées, interrogées, laquelle vous a le plus surpris en quoi sur ce sujet-là?
J'ai beaucoup aimé la façon très républicaine, là, du coup, dont Onfray m'a parlé. Parce que lui, il est resté vraiment dans quelque chose qui, que j'ai vu par ailleurs disparaître chez mes autres interlocuteurs, qui est ce qu'on pourrait appeler le sacré jacobin. Enfin, non, pardon, le sacré révolutionnaire, même si lui est très jacobin, mais disons le sacré révolutionnaire au sens de « c'est la mort du roi qui nous a émancipés ». Bon. Cette pensée est pour moi criminelle et abominable, mais je vois très bien sa sacralité potentielle. Bon, et donc chez lui, c'est présent. Donc voilà. Donc ça, ça m'a beaucoup... et donc c'est d'une certaine façon une preuve de son indépendance d'esprit, parce qu'il le pense alors que plus personne, en fait, ne pense ce genre de choses. Personne ne pense qu'on peut fonder une société sur un meurtre.
Le premier féminicide d'État.
Oui, oui, alors en plus là, Marie-Antoinette. Ah, oui.
Bon, eh bien merci encore Marin Viry, et on se retrouve dans un instant pour la suite de notre émission avec le rendez-vous de la réinformation. Et nous voilà à Radio Courtoisie, sur Radio Courtoisie, avec les lanceurs de balles, les ramasseurs de balles de la réinformation, pour parler donc non plus de la monarchie et de la royauté, mais pour parler de choses un peu plus terre-à-terre. On va commencer, si vous voulez bien peut-être, parce que le temps a avancé, sur cette question des libertés en France, donc le gel des avoirs de certaines associations, les temps de parole limités sur Internet, qui est quand même ahurissant. Hein. C'est-à-dire, quand on imagine ce qu'était Internet à sa création et ce que ça devient, le flicage sur Internet. Voilà. En gros, comment la gauche et comment Macron veulent supprimer nos libertés, c'est important. Et donc, je le disais en introduction, au nom de la lutte, au nom des grands principes, hein, sur la lutte contre le séparatisme, la lutte contre la haine, la lutte pour la protection des mineurs, on voit se multiplier... beaucoup de projets de contrôle des libertés, et la réalité, c'est donc que, sous prétexte de ces grands sentiments, on peut parler, à mon avis, assez légitimement, de répression de l'opposition qui se met en place, d'une hypothétique opposition, d'ailleurs, et qui pourrait être parfaitement comparable aux régimes illibéraux qui sont si décriés, et néanmoins... Et c'est là où je mets une autre babale dans votre camp à vous, les amis. Ces régimes illibéraux qui sont aussi si souvent applaudis dans notre camp. Alors est-ce qu'il faut se plaindre qu'on nous prive de liberté, puisqu'on trouve ça fort bien quand c'est ailleurs?
Non, parce que le régime illibéral...
Jean-Yves Le Gallou.
C'est le régime où il y a plutôt une souveraineté du peuple à travers ses élus, et au détriment d'un pouvoir judiciaire. C'est ce qu'on appelle le régime illibéral, c'est le régime qui ne confie pas tous les pouvoirs au pouvoir judiciaire. Donc c'est, à mon avis, c'est pas forcément un régime qui limite les libertés, c'est un régime qui veut assurer son pouvoir sans entrave excessive par le pouvoir judiciaire. C'est tout à fait différent, à mon avis.
Qui entrave en tout cas le pouvoir des universitaires, de la presse. En Hongrie... beaucoup d'universitaires et de journalistes qui étaient plutôt très favorables au départ à Orban, au bout de quelques années, on dit « Oula, ça commence à devenir un peu compliqué de réfléchir et de, ou d'écrire en toute liberté. »
Parce que vous croyez donc, qu'en France, c'est facile de réfléchir en toute liberté dans les universités.
Je ne dis pas que la France,
je pense
c'est
que c'est infiniment pire.
Ni libéralisme de Orban, ni la technocratie autoritaire d'un Macron.
En fait, je suis surpris qu'on ait des lumières particulières sur la vie intellectuelle hongroise, comme si on savait exactement comment ça se passe.
Moi, je le sais.
Ben, bravo, voilà. Félicitations. Moi, ce que je sais aussi à ce compte-là, c'est que par exemple, il y a une presse libre qui n'est pas possédée par Orban et avec plus de titres qu'il n'y en a en France. Ce que je sais, c'est qu'il y a une université où effectivement on peut débattre sans qu'il y ait cette espèce de mandarinat de gauche qui fait qu'un sociologue de droite ne peut pas avoir de descendance intellectuelle.
Mais ça, c'est pas le pouvoir politique. C'est le drame, c'est que c'est la prise, c'est le putsch de la gauche de bastions non élus, ou en tout cas on prend le pouvoir sans être élu, qui sont l'université, qui sont la culture, et vous regardez la censure en France, elle n'est pas verticale, elle est majoritairement horizontale, c'est vos pères qui vous balancent oui. et qui vont compter.
Vos pères PAIRS.
C'est l'écrivain qui dénonce l'écrivain, l'universitaire qui dénonce l'universitaire, c'est pas l'État qui fait un procès à Flaubert.
Mais non, parce que l'État n'a plus besoin de le faire. L'État est infesté de PS qui, on l'a vu avec l'audiovisuel public, occupent les postes qui leur permettent ensuite de proposer des chartes où on explique que le progressisme fait partie du cahier des charges. Donc,
bien sûr.
On ne peut pas dire que l'État n'est pas partie prenante. C'est-à-dire, l'État est maintenant entièrement aux mains d'une caste qui, effectivement, en possédant tous les rouages, n'a même plus besoin d'utiliser la loi. Ce mot illibéral est en fait inventé par ceux qui n'aiment pas certains régimes. Mais de là à dire qu'on se retrouve dans une espèce de dictature et que c'est compliqué d'écrire en Hongrie, c'est moins compliqué d'écrire en Hongrie que d'écrire en Chine. C'est moins compliqué.
J'avais dit que c'était une dictature.
D'écrire en France.
Ouais, c'est moins compliqué
en
d'écrire.
France, en... On peut écrire la preuve, non, on parle, on écrit.
C'est moi qui vous ai taquiné, mais on parlait surtout de la France.
Pas dans les universités.
C'est vos pères qui vous censurent et qui vous menacent.
Si vous êtes universitaire, vous ne pouvez pas choisir librement votre thèse, vous ne pouvez pas écrire librement le contenu de la thèse,
vous ne pouvez pas
devenir prof.
Bah, vous êtes enseignant dans un lycée, alors vous mériteriez d'avoir une chaire. Oui.
Parce que vos pères vous éliminent.
Elle était pourrie, votre question, monsieur le président.
Je vais juste les taquiner deux secondes. Ils sont partis dans un débat.
On est prêts à se bouffer le nez. Les pères vous éliminent avec l'argent public. Parce que l'université, ça marche avec l'argent public.
Évidemment.
Les médias, ça marche avec l'argent public. Donc, c'est pas tout à fait neutre. L'État n'est pas tout à fait neutre. Il finance.
Si on disait du mal de Retailleau, ça va nous fédérer. Donc, Retailleau a fait...
J'en dirais du bien aussi.
Ah bon ?
Oui. Mais moi, j'ai été d'abord du mal.
Effaré quand même par sa proposition de loi sur le séparatisme islamique, puisque... Enfin, on se dit quand même pas lui, quoi. Puisque son projet, donc l'article 6, là, permet de geler sans condamnation, sans condamnation, c'est vraiment préalable. C'est comme on faisait de la censure
c'est le
préalable.
C'est l'autorisation préalable, bien sûr.
Et sans procès, les fonds donc, de toute personne. Toute personne, ça ne veut pas dire seulement les personnes morales. Ça peut être des personnes physiques.
Oui,
on peut vous priver de votre propre argent. Donc, d'un certain point de vue, vous privez de votre propre défense. Parce qu'il faut trouver ensuite un avocat qui accepte de travailler gratos en attendant qu'on lui rembourse ses frais.
Ouais,
et donc, les fonds donc, de toute personne, c'est pas précisé si c'est une personne morale ou physique, qui propage des idées tendant à justifier une discrimination. Une discrimination. Mais, mais je vois pas en quoi la discrimination incite à la haine ou je ne sais quoi, ou au séparatisme islamique. Ça n'a rien à voir. La discrimination... Si on prend en plus à la racine, la discrimination, c'est le choix. C'est le fait de sélectionner, de hiérarchiser ses préférences. C'est ça, la discriminer, c'est ça en fait, à la fin.
Hiérarchiser.
Oui.
Mais ça, la gauche n'aime pas ça.
Oui, mais c'est quand même hallucinant qu'on vous prive de votre argent. Enfin, pardon, c'est à vous de me le dire. Si ça se trouve, vous trouvez ça formidable.
Très, très bien.
Mais,
on aurait fait la même chose.
Voilà, donc c'était mon avis et je me suis permis de l'étaler éhontément.
En fait, c'est comme d'habitude, ce qui est stupide, c'est la manière dont, en France, on ne peut pas nommer les choses. On fait une loi contre le séparatisme musulman, on fait une loi contre l'entrisme musulman... Bruno Retailleau l'explique, Bruno Retailleau le dit, ce n'est pas moi qui suis en train d'essentialiser les musulmans, c'est le péril musulman, ça fait partie des rapports qui sont donnés à Macron, ça fait partie des thèses qui sont agitées à la tête de l'État. Bruno Retailleau, qui fait partie d'un ministère constitué sous Macron, par Macron, pond cette loi, et comme on est dans une république laïque, et comme on doit donner des gages à la gauche, au lieu d'écrire clairement qu'on vise une partie de la population, qu'on vise une idéologie précise, qu'on vise une religion dont on sait que son théocratisme est quand même complètement incompatible, quoi qu'en pense Laurent Nunez, avec la démocratie et la République française, on écrit quelque chose de tellement général que Laurent Nunez ramasse la loi dans le caniveau où elle avait été jetée et dit « Ah, c'est génial, il faut juste parler de tous les séparatismes, y compris l'ultra-droite, et crac, ça y est, on se dit, parfait, comme d'habitude, avant qu'un juge ne condamne un musulman pour ses propos abominables comme ceux qui sont régulièrement prononcés et où il ne se passe rien, en revanche, voilà, le premier type qui brandit une banderole avec marqué l'immigration augmente la sécurité sera frappé d'interdit social.
Mais parce que je pense que derrière la loi Retailleau et la loi Nunez...
Alors Nunez, c'est les propos jugés contraires au vivre ensemble.
Oui. Vivre c'est la ensemble. Haine et la violence.
Mais allez-y pour définir ce que c'est que le vivre ensemble.
C'est une variante.
Même la violence et la haine.
Mais la source commune, c'est l'État profond, c'est-à-dire... ce qui s'appelle la direction des libertés publiques au ministère de l'Intérieur, déjà une direction des
dont
libertés publiques.
Dont vous avez
publiques.
Été un rouage, Jean-Yves Le Gallois, inspecteur général.
Pas vraiment. la direction des libertés publiques, c'est déjà, moi j'adore ça. Une direction des libertés publiques, en soi, c'est orwellien, qui est dirigée par une magistrate administrative qui s'appelle, c'est assez délicieux, Madame l'Église, et qui est présentée comme une soldate de la République. Elle est présentée comme une soldate de la République, et comme soldate de la République, elle inscrit ce dispositif dans la prolongation des lois antérieures, et notamment de la loi Pleven, parce que d'où remonte l'interdiction, la criminalisation de la discrimination à la loi de 1972. Et depuis, ça ne fait que prospérer, s'étendre et prendre de nouveaux développements. Et ce brave Retailleau, il est rentré dans ce processus avec sans doute effectivement le souci de ne pas pouvoir être accusé d'être islamophobe.
Oui, en fait, donc c'est une forme de conformisme, quoi.
Arthur de Vatrigan. En fait, il y a deux choses. Il y a deux lois. Il y en a une qui vient d'être adoptée au Sénat, c'est celle de Retailleau.
Qui est une petite loi, puisqu'elle n'est pas encore adoptée à l'Assemblée nationale.
Non, qui est adoptée au Sénat.
Oui.
Et l'autre qui est en projet, qui est fait par Nunez. Donc c'est l'ancien ministre de l'Intérieur VS le nouveau ministre de l'Intérieur. Les deux peuvent pas se blairer. Et Nunez veut absolument foutre des pièges à ours partout sur Retailleau.
Sur Retailleau.
Donc on sait pourquoi il le fait. Alors la différence entre les deux, c'est qu'il y a, je pense qu'il y a une vraie naïveté. Et en même temps, une vraie sincérité chez Retailleau, je pense, et avec son explication bidon de « il faut faire confiance à l'intention du législateur ».
Oui, mais tout
ça, c'est exceptionnel. Quoi.
Si vous voulez, ça me fait penser un petit peu à des gens comme Jordan Bardella qui vont dire « oui, c'est vrai qu'il faut interdire les groupes violents, et d'ailleurs, on va interdire tous les groupuscules d'ultra-droite ». Tout ça pour faire genre
«
je suis équilibré ».
Il assume pas dans les textes, il assume dans la parole que c'est contre le séparatisme islamique. Il dit qu'il faut faire attention à l'intention. Sauf que dans le texte, il n'y a pas. Et malheureusement, entre les associations dissoutes, les colloques interdits, Matteo Kevin et tous les Anglais du Stade de France, la confiance est légèrement rompue. Et puis Nunez, lui, il assume complètement. Il dit c'est la haine et la violence. Sachant que la définition de la haine et de la violence chez Nunez et Macron, c'est hyper flexible, hyper extensible. Il voit des factieux partout, sauf là où il prospère.
Sauf
vraiment.
Chez Bakayoko.
De toute façon, il n'y en a pas. Mais là où il prospère, il ne les voit pas.
Et attention,
donc,
parce que.
De toute façon, c'est.
Oui, mais là, même sur le fond, sur le principe. En fait, le droit, c'est quand même extrêmement précis. Et si on est un législateur, on est supposé voir le temps long. On parlait tout à l'heure de Colbert qui plantait ses forêts.
Bien sûr.
Il faut se dire, si on n'est pas extrêmement précis dans la rédaction de son article de loi, qu'est-ce que ça va vouloir dire, le vivre ensemble, la haine ou la je ne sais quoi, dans 20 ans, 15 ans, 30 ans. Enfin, c'est hallucinant.
Ça va aider celui qui est au pouvoir.
Mais oui, mais l'ennui, c'est que c'est la négation
celui
même.
Pouvoir, et celui qui sera dans les tribunaux judiciaires.
Oui, c'est la négation des principes démocratiques du fameux état de droit.
Mais bien sûr.
C'est de la 5e République, blablabla.
Mais non, il y en a un, je pense qu'il est conscient, et l'autre, il est naïf. Je crois vraiment à la sincérité de Bruno Retailleau. C'est ça qui m'effraie.
C'est quand même grave, tout de même. Moi, je veux dire, la naïveté, quand on voit toute la carrière qu'il a fait avant...
C'est ça qui est effrayant, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il n'est pas malhonnête, je pense qu'il le dit sincèrement. C'est ça qui est effrayant, c'est qu'en fait,
c'est
nul.
Plus de la naïveté, c'est de la connerie. Hein. Pardon,
oui,
mais encore une fois...
Il y en a l'autre qui est tordu, l'autre qui est nul.
Si moi, au micro de Radio Courtoisie, je suis capable de comprendre qu'un article de loi mal rédigé dans 15 ans, c'est une catastrophe, je m'étonne que des gens importants comme eux ne le comprennent pas.
Vous surestimez les ministres.
On vient d'avoir la même discussion avec la loi Yadan. Autrement dit, les gens disent non, mais il faut lire le préambule. Sauf que le préambule, il fait pas partie de la loi.
Mais oui.
Voilà. Donc les intentions de Bruno Retailleau ne font pas partie de la loi.
Je suis d'accord avec vous.
Oui, non, mais c'est ça.
Je défends pas Bruno Retailleau. Je dis qu'il est naïf, donc nul.
C'est Jean-Yves qui défend Retailleau.
Mais moi, je le défends pour
naïf, c'est la gentillesse par rapport à lui. Non, au contraire, il est retort une fois de plus. Il prétend être naïf, mais c'est pas vrai.
Ah, ouais,
et il prétend nous donner des leçons, nous expliquant, mais quand même, vous êtes bien méchante, mais pas du tout.
Il n'est pas content du tout.
Il fait partie des LR, il fait partie d'un gouvernement Macron. À quel moment on va expliquer que Retailleau est un type honnête ?
Maintenant.
Non, alors Retailleau, pour lequel je suis
Jean-Yves Le Gallou, président de Polémia,
généralement critique, pose une bonne question quand il explique que s'agissant de la maîtrise de l'immigration, ça suppose de revoir la Constitution et le pouvoir judiciaire. Quand il dit cela, il ne fait rien pour le moment, mais il pose le bon diagnostic qu'il est un des rares à poser et à oser assumer. On ne sait pas trop du côté du Rassemblement national ce qu'ils en pensent réellement. Il est possible qu'ils pensent la même chose, mais ils se gardent bien pour le moment de l'exprimer. Et cette question-là, Retailleau la pose, et de ce point de vue-là, moi je défends Retailleau, ce qui n'est pas mon tempo habituel, on va dire. Mais il pose cette question-là, qui est une question centrale, et qui est même à la limite la seule question de l'élection présidentielle de 2027, c'est est-ce que le nouveau président élu, ou la nouvelle présidente élue, changera la Constitution et reprendra le pouvoir par rapport au Conseil constitutionnel. C'est à peu près la seule question importante. Tout le reste, ça sera peut-être une personnalité différente ou une autre, mais ça ne change rien au fond. Et Retailleau pose cette question, voilà.
D'accord. Une remarque. Alors moi, je voudrais ajouter à ces deux projets de loi la loi donc Yadan modifiée Berger, qui elle va
Berger.
Plus... Aurore Berger.
Ah, Aurore Berger. Berger, oui, parce qu'il y a un autre Berger qui est au gouvernement, mais dont personne ne parle. Mais...
Je ne sais pas qui c'est. Donc... voilà, cette loi donc, va être présentée avant l'été, et elle prévoit l'inéligibilité obligatoire pour tout élu condamné pour propos jugés haineux. Donc, comment expliquer, selon vous, cette obsession Retailleau, Nunez, Berger, Yadan, pour la condamnation comme ça de simples propos jugés donc haineux, hostiles au vivre ensemble. En fait,
mais là, d'hommes politiques.
D'hommes politiques, pas de citoyens. Bah, alors il y en a un qui veut geler l'argent des citoyens, l'autre qui veut condamner les hommes politiques.
Il n'y a pas une petite élection qui se profile. Et si vous, à partir du moment où vous regardez la haine, elle s'oriente de quel côté l'échiquier politique. Bon. Bah, ils veulent éliminer et Mélenchon et Bardella. C'est ça, comme ça, vous êtes
sauf que,
rouge pour leur
sauf
camp,
que hein. Bardella n'est pas haineux, ça
mais
serait.
Non, mais dire, mais ça, on peut
de leur point de vue, bien sûr que si.
Bien sûr que
de
si.
Leur point de vue, bien
non,
sûr
il
que si.
Mais il n'y a pas de proposer. Mais,
mais la haine est une définition totalement molle. Oui. Arthur de Vatrigan, qui parfois erre, a rappelé avec justesse que c'est une définition totalement extensible.
Je vais voir sa chronique la prochaine fois. Chauville l'a publié. Ou je la mets sur un fond jaune et sur un blanc.
C'est dommage, je parlais des chauves-souris.
Mais là aussi, c'est pareil, le mot haine, il apparaît dans la loi de 1972, qui est vraiment le point de départ de tout ça. Et l'idée...
Pleven, hein.
Pleven, absolument. L'idée votée à l'unanimité à l'époque de Pompidou, et l'inéligibilité pour les propos contestables, c'est une idée qui est avancée, qui ne se traduit pas finalement dans la réalité, au moment du vote de la loi Guesso en 1990. Donc c'est un cheminement très lent et on en rajoute tous les jours, enfin tous les jours ou tous les ans, on en rajoute une petite couche pour enserrer les libertés dans un espace de plus en plus restreint.
Mais là où Retailleau quand même et sa clique ont tort, c'est qu'à chaque fois que le collet commence à se resserrer, à chaque fois ils font le parti en expliquant qu'ils sont un parti de gouvernement. Ils prennent le
responsable.
Parti de ceux qui étranglent plutôt que de ceux qui disent non, il faut arrêter. Donc quand même, Retailleau a peut-être quelque chose d'intelligent sur la manière dont le prochain pourra desserrer l'étreinte du Conseil constitutionnel. Mais il a voté avec son parti l'intégralité des lois liberticides.
Oui, absolument. Mais une partie des lois liberticides, une partie des lois liberticides, le Rassemblement national ne s'y est pas opposé.
Oui, mais
il n'a pas forcément voté. Il ne s'est pas opposé. Et ce sera intéressant de
et
voir,
pour les mêmes raisons,
de voir comment ils vont voter sur ces lois-là.
Qui s'y oppose en fait alors? Parce que alors, loi Yadan, les LFI en veulent pas parce qu'ils sont antisémites, mais ces lois où il n'y a pas de sujet communautaire, la majorité des parlementaires.
Il y a un autre député Renaissance qui s'appelle Paul Midi et qui lui veut limiter le temps de parole des politiques, donc là des politiques,
hein,
pas des citoyens, sur les réseaux sociaux.
Oui, mais, et en plus, il se présente comme libéral. Hein.
Oui. Ah bah ça, c'est très
c'est
libéral.
Quand même gros, ça, c'est... ça, je me demande si ce n'est pas une mecs, conséquence hein. de l'attitude de Charles Alonso.
Si, bien sûr, sur les réseaux.
Oui, parce qu'il a été extrêmement
Vif, il
a compris que plus la parole était diffusée dans le public, et plus
plus il serait écouté.
Plus il devenait un sujet d'importance. Voilà.
Mais alors, encore une fois, voilà, on en revient à quand même quatre propositions de loi. Toutes vont dans le même sens. Comment vous expliquez cela ?
Non, mais il y a quand même, chez tout gouvernant, une tentation de contrôler. C'est toujours été comme ça.
Non.
Bien sûr que aussi, depuis que la République est république, les gouvernants veulent contrôler.
Oui, mais il y avait un respect quand même de liberté.
Surtout parce que la politique qui est conduite va de plus en plus à contresens de la volonté populaire. C'est Vance qui a dit ça dans son discours de Munich. À partir du moment où les gouvernements européens veulent imposer une immigration de masse à des populations qui n'en veulent pas, il faut en même temps limiter les libertés. On ne peut pas ne pas limiter les libertés si on veut imposer une politique que les gens acceptent de moins en moins.
Vous l'aviez dit avant Vance, hein, pas besoin de se référer à un point américain pour dire ça.
Merci, mais bon...
Je préfère encore Polémia que les Américains.
Bon, encore. Très bien, merci. Arthur de Matrigan, merci.